Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Au pluriel, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est la règle, celle que des générations d'élèves ont potassée dans tous les manuels de français et de grammaire depuis que l'école est obligatoire. Et pourtant, c'est comme une langue nouvelle que l'on entend et surtout qu'on lit de plus en plus. Cela s'appelle l'écriture inclusive et le but, c'est de faire apparaître le féminin et la diversité dans des textes jusque-là très masculins. On l'entend parfois dans des discours politiques, notamment à gauche, et jusqu'à la parution, à la dernière rentrée scolaire, d'un manuel à destination des élèves de CE2. Il n'en fallait pas plus pour raviver une nouvelle querelle des anciens ou anciennes et des modernes. Dans un pays qui adore ça, l'écriture inclusive, progrès ou lubie, c'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Marina Iaghello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et linguiste, professeure émérite à l'université Paris 7 et auteur du livre « Les mots et les femmes » qui a été réédité constamment depuis une quarantaine d'années. Et puis, plus récemment, « Les mots ont un sexe ». Et Maria Candéa, bonjour.
Bonjour.
Sociolinguiste, vous êtes maîtresse de conférences à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, co-auteur de l'ouvrage « L'Académie contre la langue française, le dossier féminisation » sous la direction d'Eliane Viennot aux éditions X. Et comme on le disait, l'écriture inclusive, c'est surtout une forme écrite, donc c'est un petit peu difficile à faire passer à l'oral et donc en radio, mais on va quand même essayer. Prenons un mot au hasard, auditeur, au pluriel on peut dire auditeur et auditrice, ou alors en écriture inclusive, audit, point milieu, c'est comme ça que ça s'appelle, ris, point milieu, S. C'est un exemple un peu biaisé puisque le mot existe au masculin et au féminin au pluriel, mais c'est l'idée de l'écriture inclusive, donner les deux genres masculin et féminin dans la même façon d'écrire le mot. Est-ce que j'ai bien expliqué ça, Maria Candéa?
Vous avez bien expliqué la forme la plus récente qui s'est diffusée le plus récemment. Mais pour moi, l'écriture inclusive, en fait, concerne d'autres façons de faire qui font moins polémique. Par exemple, quand vous dites les auditeurs et les auditrices, c'est déjà de l'écriture inclusive. Et le fait de mettre ensemble dans le même mot, c'est juste une forme écrite, vous l'avez dit, pour faire plus court. Mais l'écriture inclusive est en fait beaucoup plus variée que ça. Et vous pouvez aussi dire, je me permets de remarquer, le public. C'est aussi de l'écriture inclusive. Plutôt que de dire auditeur, auditrice, quand on veut faire encore plus court.
D'accord. On peut, effectivement, le temps, c'est important en radio et on a besoin parfois de faire court. Qu'est-ce que vous en pensez, Marina Iaghello?
Moi, je pense que, de toute façon, tout ce qui concerne l'oral et l'écrit, c'est complètement différent. Alors, à l'oral, je constate qu'il y a un progrès absolument incontestable depuis une quarantaine d'années que je m'occupe de la question. On entend constamment le masculin et le féminin, les auditeurs et les auditrices, ceux et celles. On n'entend pratiquement jamais un homme politique omettre le double syntagme avec la désignation masculine et féminine.
C'est vrai que c'est devenu une forme pratiquement obligatoire dans le discours politique.
Complètement. Alors c'est le général de Gaulle qui avait commencé avec français, qui s'est imposé absolument comme la norme.
Et qui a été, très fortement attaqué par l'Académie à l'époque.
Oui, bien sûr. Oui, mais il a vraiment démarré quelque chose qui maintenant est totalement incontournable.
C'est logique dans la mesure où c'est lui qui a donné le droit de vote aux Françaises à l'époque.
Absolument, tout à fait.
D'où vient ce problème? Est-ce que c'est l'absence de genre neutre en français? Alors même s'il y a quelques survivances dans des dialectes de certaines régions de l'Est de la France notamment.
Oui, bien sûr, la position des grammairiens traditionnels et de l'Académie, c'est que le masculin est une espèce de neutre. Donc dans la pratique, évidemment, c'est probablement assez vrai. Dans la pratique traditionnelle, c'est certain, puisque le masculin l'emporte sur le féminin, non seulement dans les désignations spécifiques, mais surtout dans les emplois génériques, lorsqu'on parle de l'espèce, lorsqu'on parle du métier, de l'activité, c'est désigné normalement toujours dans la langue courante. Par la forme du masculin. Et donc c'est là qu'est le problème vraiment délicat. Est-ce qu'on doit tout le temps décliner les deux formes l'une à côté de l'autre? Et l'écriture inclusive est une façon une espèce de raccourci, de ne pas justement déployer la totalité du syntagme, mais de le réduire en utilisant donc le point.
Maria Cordéa, c'est quoi le but premier de l'écriture inclusive? C'est de donner à voir la diversité.
Oui, tout à fait. Et de jouer donc du coup un peu sur les imaginaires. En fait, vous l'avez dit, le masculin, la règle du masculin qui l'emporte, qui a été enseignée depuis un certain temps, est très mal accueillie actuellement. Donc je veux dire, comme la société change, à un moment donné, évidemment, la langue change aussi, ça va un petit peu ensemble. Et donc, ça fait longtemps qu'on cherche en français des façons de démasculiniser cette langue et de rendre visible, en fait, parce qu'on se rend compte que quand on dit les hommes politiques, c'est pas du tout neutre, et on a du mal à dire les hommes politiques et ensuite penser congé maternité. Enfin, donc du coup, c'est jouer un petit peu sur les imaginaires, et ça fait longtemps qu'on cherche des solutions. Donc il y a plusieurs solutions, soit donner les deux formes l'une à côté de l'autre, soit chercher des formes vraiment génériques, comme le public, ou j'ai trouvé dans votre ouvrage, Madame Yagello, le corps enseignant. C'est pareil, oui, plutôt sûr. Que de dire les enseignantes et les enseignants. Absolument. Donc c'est un souci constant de inclure tout le monde et de ne pas exclure la moitié des gens.
Petite question aux linguistes que vous êtes, depuis quand ça existe cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin? Est-ce que ça a toujours été le cas, Marina Yagello?
Bah, écoutez, oui, bah, je pense, oui, au cours de l'évolution de la langue française, donc cette règle s'est installée. Je pense que, oui, effectivement, elle est la langue française a mis un certain temps à évoluer avant de prendre la forme que nous connaissons aujourd'hui.
On peut quand même remonter
Maria
à la source.
Candéa.
Mais on peut quand même remonter à la source de la création de l'Académie.
Au latin aussi.
Ben oui, mais du coup, cette règle était en concurrence. Il y avait deux règles qui étaient en concurrence. C'était celle du masculin qui l'emporte.
On remonte au XVIIe siècle.
À la fin du XVIIe siècle. Et il y avait aussi la règle qu'on appelle de proximité ou de voisinage, qui veut dire qu'en fait, au pluriel, les adjectifs, par exemple, vont s'accorder avec le dernier mot. Le plus proche du verbe, donc on dira des jours et nuits entières, c'est ce que dit Racine, ou des nuits et jours entiers. Oui. Et donc les deux formes étaient correctes. À un moment donné, l'Académie a tranché, et c'était sur des bases purement sexistes, de dire que le masculin est plus noble. Absolument. Et donc, et cette règle a mis beaucoup de temps. En fait, la fluctuation est restée très longtemps en français. Les gens utilisaient les deux types d'accords jusqu'à, vous l'avez dit, jusqu'à la diffusion de l'école obligatoire qui a fait qu'on a enseigné cette règle et on a perdu sa source, en fait.
Et on ne va pas accuser Racine de ne pas maîtriser la langue française. Personne ne fera ça ici.
J'espère.
Ce manuel d'histoire géographique a été publié en début d'année par la Maison Hatier. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'en est ému. Alors, comme c'est souvent dans ce genre de cas, la polémique vient sanctionner quelque chose qui existe déjà, en fait. L'écriture inclusive, ça existe, vous le disiez, sous différentes formes, depuis plusieurs années. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi s'énerver maintenant?
Oui, mais je suis pas très consciente du fait que Jean-Michel Blanquer se soit beaucoup énervé. C'est pas vraiment lui, en fait. Je crois que toutes ces questions sont extrêmement sensibles pour la population francophone, et en particulier dans ce pays, la France, c'est assez différent dans la périphérie de la francophonie.
C'est une vraie passion française. Hein.
Passion française, justement.
Mais en tout cas, cette pratique existe depuis très longtemps. Enfin, ça fait au moins une quinzaine d'années que je la vois. Moi, j'ai assisté à l'émergence des débats dans les milieux féministes sur l'utilisation de la parenthèse pour exactement la même chose. Dans la première édition du livre Les mots et les femmes, ça a commencé par au lecteur, parenthèse, trice. Au lecteur, lectrice. Et donc, dans les années 2000, ça devenait à peu près irrecevable que dans les milieux féministes, on mette les femmes entre parenthèses. Parce qu'on pensait à ce problème symbolique. Et donc, du coup, ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on cherche des points, des tirets, des majuscules, des façons de tenir les deux ensemble quand on veut faire court. Encore une fois, on peut très bien déployer, écrire français et française, auditeur et auditrice, etc., etc.
Alors, vous l'avez abordé à l'instant, sommairement, Marina Yagello, d'un pays qui a une autorité sur la langue, qui s'appelle l'Académie française, très réglementée, très centralisée, mais on parle français ailleurs, au Québec, en Belgique, en Suisse, en Afrique, puisqu'on est quand même sur RFI. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu plus de souplesse dans ces pays-là?
Mais infiniment plus. Infiniment plus, et en particulier au Canada. Les Canadiens sont vraiment, pas du tout à cheval sur les règles qu'impose l'Académie française.
Ils sont totalement
libérés de l'influence de l'Académie française, je peux dire. De même que les Suisses et les Belges qui sont beaucoup plus souples. Je pense qu'en France, il y a une espèce de de tabou qui est imposé par l'Académie, et les gens s'écrasent littéralement devant l'autorité de l'Académie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les arguments pour ou contre, qui peuvent être extrêmement bien documentés, bien valables, mais du moment que l'Académie française a dit non...
Maria Candéa, vous avez écrit l'Académie contre la langue française, donc on sent que vous êtes peut-être un petit peu critique vis-à-vis de cette institution.
Je suis très critique et j'ai suivi les débats depuis les années 80 quand justement ce besoin de nommer les femmes dans leur métier avec les mots qui s'accordent, pour tous les métiers, pas seulement pour les métiers traditionnellement féminins, ce qui paraissait absolument logique dans la logique de la langue. Donc dans les années 70 et après la victoire de Mitterrand, c'était du coup porté au pouvoir, il y a eu cette demande sociale. On veut avoir des noms pour tous les métiers, en français c'est comme ça. Et l'Académie aurait eu son rôle à jouer là pour le coup, vous donner une liste, bon bah voilà, vous voulez des noms au féminin, on vous suggère là où il y a doute. Elle n'a pas du tout fait ce travail, elle a fait un travail de sape idéologique pour essayer de freiner la langue, elle n'a pas réussi mais ça a quand même bien retardé les choses. Et au lieu de donner des listes de mots pour justement suggérer là où il y avait quelques hésitations, elle s'est surtout évertuée à dire que ça serait l'apocalypse, que le français allait disparaître, qu'il était sabordé sur ses bases, et que si on veut dire la présidente de la République, ça équivaudrait à dire Madame Mitterrand ou Madame Fabia. C'était un des arguments de Dumézil.
Ah d'accord, donc, comme on disait, la colonelle pour dire la femme du colonel.
C'était l'usage du 17e, c'était l'usage de la langue ancienne.
C'était dans les années 80. Donc du coup, la langue a bien sûr évolué, parce que les usages évoluent. Je pense que c'est très lié à l'organisation de la société. Le langage ne change pas la société, ni vice-versa, la société ne change pas le langage de façon magique. C'est une évolution qui se fait de manière constante. Et pour moi, je vois une continuité. Donc, les noms de métiers tous accordés au genre de la personne qui les exerce. Ensuite, une réflexion sur le générique en général, sur le sens non générique de les hommes ou l'homme. On parle plus de droits humains que de droits de l'homme, etc. Mmh. Donc, toute cette réflexion a eu lieu, vous avez raison de le dire, beaucoup au Canada, en Belgique, en Suisse, pas seulement en France. Un peu moins en Afrique. Ah, selon mes connaissances, parce que probablement les milieux universitaires en Afrique sont plus liés à la France, oui. Alors que les milieux universitaires et féministes canadiens sont déjà plus éloignés géographiquement et sur le plan symbolique, et peut-être qu'il y avait plus de liberté de penser sur ce point-là. Mais moi, je vois une continuité, donc la réflexion sur le générique. Ce qui va suivre, c'est la réflexion sur l'accord, sur justement pourquoi quand il y a un homme et 50 femmes, pourquoi on pourrait pas utiliser le féminin à la majorité. Ça me paraît assez logique, donc je pense que ça sera le point suivant. Et l'écriture qu'on appelle maintenant inclusive, qui est en fait assez ancienne, c'est juste une façon d'écrire de façon plus brève, donc pour prendre moins d'espace, c'est une écriture experte. Je pense qu'on n'a peut-être pas la forme finale.
Alors, Marina...
Moi, je fais une petite remarque, oui, j'aurais quand même fait remarquer que on ne peut pas toujours éliminer l'emploi générique masculin, parce qu'il y a des cas où c'est tout simplement c'est impossible.
Le mot n'existe pas au féminin,
non,
c'est ce que vous voulez dire, c'est
pas non, ça. Non, pas du tout. Non. Syntaxe. Je pense, j'ai un exemple en tête d'un article du Monde s'agissant d'une élection présidentielle au Chili, je crois, et donc le journaliste écrit les deux candidats à la présidentielle sont des femmes.
Oui.
Alors qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous n'allez pas dire les deux candidates à la présidentielle sont des femmes.
Ça serait un pléonasme terrible.
Oui, ce serait une tautologie.
Le jour où
et ça semblerait indiquer qu'il n'y a que des femmes qui sont susceptibles d'être candidates, et ça serait en plus une tautologie. Et vous ne pouvez pas dire non plus les deux candidats pointés. On ne peut pas utiliser l'écriture inclusive parce que ça serait absurde.
Alors, on peut tourner la phrase.
Hein. On peut tourner la phrase autrement.
Deux femmes se présentent à la candidature.
Les deux candidats sont des femmes.
Si je peux ajouter,
on est obligé d'avoir un générique masculin, ouais. Et ensuite on va avoir un spécifique, c'est deux femmes.
Je peux ajouter que quand on est journaliste en radio, par exemple, ça nous arrive quand même très très souvent de tourner les phrases pour pouvoir dire des choses comme ça. Je reviens à l'écriture inclusive. Est-ce qu'on peut réellement l'enseigner dans une langue qui est déjà compliquée? Est-ce que c'est pas rajouter de la difficulté à l'enseignement? On sait que les enfants ont parfois du mal à savoir lire et écrire à la fin de l'école primaire, Maria Candéa.
Alors, ce que je sais, c'est que j'ai entendu beaucoup de profs des écoles qui disent que les filles se révoltent à 7 ans quand elles entendent que le masculin l'emporte.
Oui, c'est vrai, donc, ça se fait de plus
ça
en plus.
Ça veut dire que ça montre quelque chose de la société dans laquelle nous vivons, parce qu'à 7 ans, avoir une conscience politique sur cet aspect, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et donc il faut qu'on trouve des solutions pour sortir de ce système et trouver une manière moins patriarcale d'enseigner les accords et de les mettre en pratique. Alors du coup, on peut trouver d'autres solutions adaptées à chaque âge. Pour moi, l'écriture avec les points, premièrement, on peut simplifier les points. On peut mettre un seul point, par exemple, pas deux. Enfin, on peut trouver des choses un peu plus faciles, mais on peut commencer par autre chose à l'école. On peut commencer par réfléchir à des règles d'accord non sexistes, donc l'accord à la majorité, l'accord de voisinage, enfin des accords alternatifs. Déjà, ça permet de voir venir. On peut, bien entendu, utiliser les noms de métiers accordés au genre de la personne qui les exerce pour absolument tous les métiers, pour avoir quelque chose d'homogène en français. Donc déjà, ça permet de défaire un peu le sexisme de la langue. Et ensuite, quand on commence à écrire des phrases un peu complexes avec des mots génériques qui renvoie à de l'humain, on peut commencer à l'école par enseigner les formes doubles, c'est-à-dire tous et toutes, les auditeurs et les auditrices, etc., etc. Et ensuite, quand on a besoin d'espace, parce qu'on n'a pas tout de suite besoin d'économiser de l'espace avec les enfants, on peut passer à cette forme. En fait, les enfants apprennent très vite beaucoup de choses, et notamment, ils apprennent très vite des abréviations.
Marina Yagelou, pour les SMS. Même question pour vous. Est-ce que...
Un petit peu plus réservé.
Oui, alors, voilà. Est-ce que c'est un peu compliqué? C'est rajouter des difficultés?
Autant je pense que la féminisation des noms d'agents doit être poursuivie, doit être totale et universelle.
Alors là, on parle, pour le dire clairement, on parle des métiers.
Les noms d'agents, c'est pas forcément des métiers, oui. Les noms d'agents. C'est toutes les activités, tous les statuts, pas seulement les métiers.
Les titres, les fonctions.
Les titres, les fonctions, etc. Donc, à ça, je pense que le mouvement a été lancé il y a une quarantaine d'années. Je pense qu'il y a pas mal participé. Ça a beaucoup progressé, ça a même énormément progressé.
Il y a encore parfois quelques petites difficultés.
Oui, mais ça doit vraiment totalement réussir. Je pense que il y a eu un énorme progrès ces dernières années, d'ailleurs sous l'impulsion parfois des politiques, hein, faut bien le dire. Donc effectivement, là, le problème pour moi est pratiquement réglé. Bon, maintenant, l'écriture inclusive, c'est déjà un petit peu plus compliqué. C'est quand même une difficulté, je crois, quand même supplémentaire. Je suis pas absolument sûre que l'accord par de majoritaire est forcément une bonne idée, parce que déjà, les enfants ont énormément de mal à marquer les accords. Enfin, les accords en français, c'est quand même quelque chose d'assez monstrueux.
C'est quelque chose de compliqué.
C'est quand même extrêmement difficile. Moi, qui suis grande lectrice de journaux, je repère, mais sans arrêt, des fautes d'accords.
Oui, ah,
surtout les accords de participe, il faut bien dire, qu'ils sont presque toujours faux. Mais...
Je vous avoue un truc. Voilà. J'ai corrigé un participe dans mon introduction de l'émission tout à l'heure parce que j'étais pas tout à fait sûr de moi.
Oui, mais voilà. Les accords de participe, c'est un véritable désastre dans la presse, y compris dans la presse sérieuse comme Le Monde, il faut bien le dire. Oui, donc voilà. Là, j'ai peut-être un peu des réserves sur simplement la faisabilité, enfin sur le côté pratique d'imposer ce type de procédure.
Alors, il va nous rester très peu de temps à chacune.
Juste un petit exemple. J'ai, donc, en lisant Le Monde tout à l'heure, avant de venir ici, je tombe sur un article qui avec le titre suivant. Élection du ou de la présidente de la Fed.
Voilà. Écriture inclusive.
Non, même pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas le point, c'est
non,
du
si.
Ou de la mais présidente.
C'est ça,
oui, d'accord.
Oui, c'est développé.
Présidente.
C'est envisager qu'il peut y avoir un homme ou une femme à cette...
Je pense quand même qu'il y a une explication à ça, qui est que l'actuelle présidente de la Fed, Janet Yellen, donc précisément, est une femme. Et on s'attend à ce qu'elle soit réélue. Donc je pense
quand on imagine qu'il peut y avoir aussi des femmes dans l'histoire, on éprouve le besoin
tout
de le marquer. Et je pense que, peut-être pour finir, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je pense que les choses vont se passer exactement comme pour la féminisation des noms de métiers. Les usages vont trancher et à un moment donné, des pratiques masculinisantes vont devenir ringardes.
Merci Maria Candéa, merci Marina Yagelou d'avoir participé à cette émission. Merci à Florence Ponce et à Arthur Tossou qui vous ont fait venir. Merci à Quentin Bresson qui était à la mise en onde. Prochain débat mercredi, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. RFI.